Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve le général Forget.
Bonjour, dans cette émission, vous allez entendre le général Michel Forget, correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques, qui reçoit Lars Védine, lauréat 2012 du prix Edmond Fréville Pierre Messmer.
Canal Académie a le plaisir de recevoir aujourd'hui le capitaine de vaisseau Lars Védine, de la marine suédoise, lequel a écrit un livre dont le titre est « Marianne et Athéna » et le sous-titre « La pensée militaire française du XVIIIe siècle à nos jours ». C'est un livre qui est apparu sous le thème de « Economica ». C'est à notre connaissance le premier ouvrage traitant d'un tel sujet, ouvrage dont l'intérêt a justifié que son auteur reçoive le prix Edmond Fréville Pierre Messmer pour l'année 2012, qui est l'un des prix de l'Académie des sciences morales et politiques. Le capitaine de vaisseau Lars Védine est actuellement du cadre de réserve. Il est chercheur auprès de l'Institut d'analyse stratégique du Collège de défense suédois. Il est membre de l'Académie royale des sciences de guerre et de l'Académie royale des sciences navales. Et j'ajoute, le capitaine de vaisseau Védine a fait l'école supérieure de guerre navale, je crois que c'était en
85-86.
Donc, bienvenue, commandeur, comme on dit dans votre pays, c'est bien cela. Et félicitations en tout cas pour ce livre tout à fait passionnant, qui rend un hommage d'ailleurs, un hommage appuyé à la pensée militaire française. Alors c'est un livre qui fait plus de 400 pages, il n'est bien sûr pas question de traiter tous les aspects de ce livre. Je n'ai retenu qu'un certain nombre de points, je dirais les points les plus marquants. Alors je commencerai par rappeler l'importance que vous avez accordée dans votre livre, à juste titre, à l'influence des penseurs militaires du siècle des Lumières. Chevalier de Follard, le comte de Guibert, et qui ont formulé des idées qui se sont ensuite développées, matérialisées pendant la Révolution, et surtout par Napoléon. Alors en ce qui concerne Napoléon, vous dites, là encore avec juste raison, ce n'était pas en fait un théoricien, Napoléon. Mais tout de même, entre d'une part les penseurs du siècle des Lumières que j'ai cités, et d'autre part les successeurs, les penseurs après Napoléon, et je pense à l'un d'eux qui est Clausewitz, quelle position a Napoléon dans cette situation entre deux écoles de pensée, d'après vous?
Oui, ce n'est pas vraiment après moi, parce que c'est une théorie, une de mes sources pour l'histoire navale, la pensée navale. C'est-à-dire, il y a d'abord, dans le développement de la théorie, il y a d'abord un certain nombre de penseurs qui sont un peu, peut-être pas du tout, dans la même ligne, etc. Et puis, il y a quelqu'un, au moment où on met tout ça en œuvre, et puis il y a la synthèse. Ça marche très bien avec Napoléon, ce qui est venu Lumière, et puis Jomini et Clausewitz. Ça marche assez bien aussi avec les guerres des Crimée et les penseurs navals avant et après, mais pas plus que ça. On verra bien si on aura les mêmes phénomènes en 10 ans ou quelque chose pour les guerres irrégulières que nous avons fait dans les derniers 10 ans, mais c'est trop tôt à dire. C'est-à-dire, il y a quand même, d'abord pendant le siècle Lumière, l'aspect le plus important de ce siècle, c'est l'envie de savoir, d'organiser, d'analyser, et évidemment c'est aussi pour les penseurs militaires, parce que c'est un de mes thèses dans le livre, que la pensée militaire ne se fait pas dans un vacuum, ça fait partie de la histoire contemporaine, la culture contemporaine, etc. Et les idées d'offensive, d'une bataille décisive, le choc, etc., c'est développé donc, par le chevalier Follard, le jeune Guibert, parce qu'il change d'avis quand il est plus âgé. On a aussi cette idée de la spécificité française. Follard a dit que le soldat français, il est ardent, impatient, vif et impétueux. C'est un thème qui revient avant la guerre de 14. Il y a un certain nombre, comme Gébert et Turpin de Crécy, qui ont travaillé pour les réformes sociales, les réformes dans les armées. L'idée de citoyens armés vient avec Gébert et Savon de Gerby. Donc ça, c'est la base quand même de l'armée révolutionnaire, les gardes de Napoléon. Et Gébert aussi parle beaucoup de la mobilité.
Les successeurs, Clausewitz.
Oui, et enfin, c'est très important, donc c'est la répartition en division qui est le maréchal de Bruel, je crois qu'on dit. Parce que c'est ça, et plus tard, le son développement par le maréchal Moreau, l'organisation des armées de Napoléon.
Je voudrais vous poser une deuxième question sur l'évolution de la pensée militaire française entre 1870 et 1914. Il y a tout de même une contradiction très grande entre, d'un côté, les efforts qui ont été faits après 1870 pour améliorer les choses sur tous les plans. Sur le plan de l'organisation, c'est la fameuse loi de 1882, c'est la création de l'école de guerre en 1878, c'est la création du service national obligatoire en 1889. Il y a donc une relance et aussi de la pensée militaire qui est évidente. Mais de l'autre côté, on constate qu'en 1914, l'armée n'avait pas les équipements adaptés et même pas les équipements, et notamment les équipements des soldats, la tenue, le manque d'artillerie, et d'artillerie lourde, ce qui est quand même cruel. Alors, comment vous interprétez cela? Vous dites, je crois, dans votre livre, à un instant, que ça a été dû au fait que le mépris de l'éducation et de la culture dans le milieu militaire de l'époque. C'est une explication qui me paraît juste, mais peut-être pas suffisante. Pouvez-vous détailler votre pensée?
Ce n'est pas du tout suffisant. C'est un autre auteur, M. Klutz, qui a écrit ça. Parce qu'il a écrit que la pensée qu'on a fait à l'école de guerre n'a pas vraiment fait conséquence les troupes, parce que les officiers n'étaient pas assez éduqués. Je ne crois pas, quand on est officier, on sait bien que même si les officiers ne sont pas très savants, les aider à sommer, ça va se répandre dans les armées, surtout quand il y a des idées en apparition simple, comme le colonel Grandmaison dans ses fameuses conférences 1911, où il parle de la morale, c'est l'attaque. Il faut vaincre par l'attaque. L'imprudence est la meilleure prudence des autres idées comme ça. Ce qui est la base de pensée de cette offensive à l'outrance. Et je crois, si les officiers à l'époque n'étaient pas trop différents d'aujourd'hui, c'est des slogans qui facilement entrent dans la tête.
Est-ce qu'il n'y avait pas non plus un excès de l'importance donnée aux forces morales qui, à l'époque, c'est vrai, le peuple français d'une façon générale, et les soldats en particulier, étaient animés par un patriotisme extrêmement ardent, n'est-ce pas? En particulier la reconquête de l'Alsace et de la Lorraine, ce qui explique qu'ils sont partis au combat d'une façon, la furia française, hein, c'est le terme qu'il faut employer. Et la deuxième chose, est-ce qu'il n'y a pas non plus une lacune dans le renseignement sur ce qui se passait de l'autre côté et sur la façon dont les Allemands étaient équipés et sur la doctrine même de l'armée allemande? Ce qui pourrait expliquer le...
Non, je ne crois pas. Alors, d'abord, l'armée française a bien suivi les événements en Afrique du Sud et la guerre entre le Japon et la Russie, la guerre de Manchurie, je crois qu'on l'appelait. Oui, on a bien suivi, on a fait des rapports, on en a écrit, mais on n'a peut-être pas tiré les bonnes conséquences, les bonnes expériences. On peut le lire aussi comme une adaptation tactique. Alors, on avait conscience que les Allemands étaient plus nombreux, meilleur équipés et très bien entraînés. Et donc, quel est l'atout de l'armée française? Oui, c'est le soldat. C'est le soldat français avec son élan vital. Et donc, il faut utiliser cet atout et de vaincre dans un combat offensif. C'est la seule possibilité. Et c'est remarquable que dans tous les écrits de Foch, vous savez, il a publié ses conférences à l'école des guerres, il ne parle que de l'offensive.
Pas du tout de la défensive. Il était partisan de l'offensive à outrance.
Oui,
absolument.
Et ça aussi dans le temps, avec le social-darwinisme, philosophe comme Bergson, Sola par exemple, il a écrit « La guerre, c'est la vie même ». Donc c'était une idée que c'est la guerre, c'est la purification de la nation, etc. Et pour les socialistes, c'était aussi quelque chose qui croulait avec la révolution, le Valmy, l'expérience de Valmy, où l'armée française a attaqué la première fois sur la crise de Vive la nation.
Ça a coûté très cher, hein, parce que je lisais récemment que entre août et décembre 1914, nous avons perdu 850 000 hommes, en comptant les tués, les blessés, les prisonniers, les disparus. 850 000 en 5 mois. Nous allons passer à une autre question, plus d'actualité. C'est la stratégie nucléaire de la France. J'avoue que j'ai trouvé tout à fait remarquable, et j'ai apprécié dans votre livre, que vous y ayez consacré plusieurs chapitres d'ailleurs, à l'analyse de notre doctrine et de notre conception, que vous avez d'ailleurs parfaitement analysée. Et parmi les penseurs nucléaires, j'ai quand même une question à poser. Vous avez évoqué tout le monde, Aron, Beaufre, Poirier, Ailleret, Gallois. Au passage, le général Ailleret n'appartenait pas à l'armée de l'air. C'était un polytechnicien et un artilleur. Polytechnicien et artilleur. Mais vous avez consacré un chapitre sur 3 théoriciens qui sont Aron, Beaufre, Poirier et le général Gallois.
Oui, c'est vrai. Donc j'ai... Dans ce chapitre de la guerre froide, il y a partie en deux, en principe. D'abord, c'est le développement de la doctrine nucléaire et comment c'est développé pendant la guerre froide, et la discussion des 3 cercles, tout ça. La dissuasion, tout ça, c'est mus. Et là, je crois que j'ai bien traité Gallois, qui est celui, si je bien comprends, qui a fait comprendre de Gaulle l'intérêt de l'arme nucléaire et l'arme d'indépendance. Et j'ai bien lu son livre sur la nucléaire.
Oui, vous avez lu son livre, qui est fondamental. C'était le livre que j'étais à l'école de guerre à cette époque. Ouais. On se nourrissait de ce livre.
Mais c'est un peu antérieur de la doctrine de la dissuasion du faible au fort. Et puis, pourquoi Aron, Beaufre et Poirier? Parce que d'abord, je suis un adepte du général Poirier.
Oui, mais je le connais aussi. Ouais.
Maintenant, je sais, il est très âgé. Mais j'ai fait plusieurs entrevues avec lui. J'ai suivi un peu son taxonomie quand j'ai écrit sur la stratégie. Et je voulais évoquer la ligne de pensée, c'est comment la stratégie, les dires de stratégistes élargis, de Castex, stratégie générale, et puis Aron, la stratégie élargie, Beaufre, la stratégie totale, et enfin Poirier, la stratégie intégrale. Et je voulais surtout montrer les idées de Beaufre et de Poirier comme une analyse le fait stratégique. Et ça, je trouvais très intéressant. Certainement, j'aurais pu lire beaucoup plus sur Gallois, mais il y a des limites. C'est ce qu'on peut faire.
Le général Gallois avait l'art des formules. Quand il parle de l'égoïsme nucléaire ou quand il parle du pouvoir égalisateur de l'atome. Ce sont des images extrêmement frappantes, car non seulement, et bien sûr en premier, il a su convaincre le général de Gaulle, mais il a su convaincre aussi dans l'armée française. Ce n'était pas évident à concevoir, pas du tout. Nous étions dans l'OTAN, et là, on devenait indépendant. C'était quand même une période où il y a eu beaucoup, beaucoup de réflexions, de discussions d'ailleurs, avec des oppositions farouches par moments, entre les différentes opinions. Quelle réflexion dans votre pays à ce moment-là, est-ce que vous avez, dans votre pays, c'était suivi cette affaire? Enfin, votre pays, c'est quand même, il y a eu quand même l'appel de Stockholm. Hein, dans...
Oui.
Vous me direz, c'est
oui,
à part.
Oui, mais il faut faire la différence entre la stratégie morale et la stratégie militaire.
Dans le milieu militaire suédois, est-ce que...
La Suède a poussé un programme nucléaire entre milieu des années 50... jusqu'à 68, je crois, quand TNP, quand la Suède signe la traité de prolifération nucléaire, c'est évidemment que la Suède ne peut plus poursuivre son recherche d'une arme nucléaire. Mais notre CMA, en 58, il a clairement dit qu'il faut avoir une arme nucléaire. Et l'armée de l'air l'aimait beaucoup aussi, parce que c'était l'armée de l'air qu'il fallait porter. Mais puis on a rendu compte que c'était très cher. Et donc, ça va coûter quelques d'organisations, ça va coûter des avions, des bâtiments, etc., etc. Et on s'est rendu compte que c'était un problème.
Donc, il y a eu des discussions, donc, très importantes.
Et il y avait un problème. Mais là, le général Gallois se trompe. On n'a jamais discuté la nucléaire comme une arme de stratégique, c'est une arme tactique. C'est la question de dispersion, c'est-à-dire si les Unions soviétiques avaient bien sûr l'arme nucléaire, et donc ça nous a contraint d'être très dispersés, mais nous, comme nous n'avons pas une arme nucléaire, ils pourraient se concentrer. Et c'est un peu ça, la balance stratégique qui a mené à ce programme nucléaire. On a mis un petit programme de gaz aussi.
Je vous remercie de nous donner ces précisions, qui n'étaient pas dans votre livre, mais qui sont intéressantes. C'est une question qu'on se pose quand on est en France. Deux mots sur les guerres irrégulières et coloniales. Vous reconnaissez, vous rendez hommage à nos armées, d'ailleurs. Vous reconnaissez leur savoir-faire, c'est vrai. Vous parlez de Bugeaud, de Gallieni, de Lyoté, des grands théoriciens de la guerre. Disons, la guerre subversive, Trinquier, Beauf, Bijard. Le général Bijard était un combattant extraordinaire. Était-il théoricien de la guerre subversive? Personnellement, je ne le classerais pas parmi les théoriciens. Tout en reconnaissant, c'était un admirable soldat. C'était un chef qui avait un allant, qui avait le sens de la manœuvre, le sens du terrain. Il sentait les choses. Théoricien des guerres subversives, je ne crois pas.
Je l'écris aussi, mais j'avais du mal à ne pas nommer le général Bijard dans ce contexte. Et puis, dans la bibliographie, dans son dernier livre, « Mon combat pour la France », il note un livre de lui qui, sur le titre, on a l'impression que ce sera un livre plutôt théorique. Mais ça ne se trouve pas.
Il y a une autorité que vous ne citez pas dans ce passage, puisqu'on parle de guerre subversive, c'est le général Charles, qui a été le général qui a défini les principes de conduite d'une guerre subversive, qu'on vient d'ailleurs de redécouvrir avec ce qui s'est passé tant en Irak avec les Américains, par le général Petraeus, qu'en Afghanistan. C'était Charles qui a monté une... vous n'avez pas parlé.
Non, je sais.
Peut-être que vous n'avez pas osé ou...
Non, pas, c'est pas... Vous savez, quand on écrit un livre comme ça, on vient de l'extérieur, on trouve des traces ici. Tranquille, c'était facile. Et quand j'ai parlé avec le général Poirier, il m'a parlé de cette école française qui commence avec Marshal Suchet, et puis Bugeaud, Gallieni, Lyoté, Trinquier, etc. Et là, je n'ai pas vraiment trouvé le général Charles. J'ai fouillé mes sources, mais je sais que quand le livre est en train d'être édité, je commence à comprendre que j'aurais dû écrire plus sur le général Charles.
Je vous en remercie. Si vous voulez, je vais sauter parce que le temps passe. J'aurais quand même parlé de stratégie navale. Tout le même, vous êtes expert et vous avez consacré dans votre livre à peu près la moitié à la stratégie navale à côté du reste. Alors, en ce qui concerne la stratégie navale, vous dites des choses qui sont extrêmement logiques. Vous dites que c'est resté jusqu'à la Grande Guerre, on en a beaucoup parlé, que les débats se sont limités, c'est vrai, entre la bataille navale et Thuringman, c'est-à-dire la bataille qui permet de remporter la décision d'un côté, et de l'autre, la guerre des courses, celle qu'ont fait les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, où on essaie d'interrompre les voies de communication. Tout de même, notre marine a joué un rôle, vous en parlez d'ailleurs, important dans les conquêtes coloniales. Elle ne s'est pas contentée de bataille navale, de lutte de conception entre bataille navale et guerre des courses. Vous êtes d'accord avec moi?
Oui.
Vous avez raison de dire que c'est après 1914-18 que les choses ont changé, avec l'amiral Castex en particulier, qui a replacé la stratégie navale dans la stratégie générale. Mais j'ai trouvé que vous n'avez pas beaucoup parlé du porte-avions, qui tout de même a apporté une révolution dans la stratégie navale, et je dirais même dans la stratégie opérationnelle, d'une façon générale.
D'abord, quand j'ai écrit le chapitre sur la guerre froide, donc je me suis concentré sur la question de nucléaire et la théorie stratégique générale, et enfin aussi la guerre irrégulière. J'ai écrit quelque part exactement que, évidemment, c'est très intéressant de savoir comment est-ce que les forces armées françaises, navales, marine, armée de l'air, armée, quelles sont les leçons de la Deuxième Guerre mondiale? Comment est-ce qu'on a tiré les conclusions? Quelles conclusions? Qu'est-ce qu'on a fait avec? Et j'ai pas fait ça. J'ai été contraint de me concentrer dans une chose, sur la nucléaire, parce que j'ai trouvé ça le plus intéressant. Donc c'est un travail qui reste à faire. Et pour la porte-avions, oui, je n'ai pas tracé la porte-avions en soi, Mais l'idée de la projection de puissance, ça vient de l'amiral, le futur amiral Richelieu de Grivel, au milieu des années 1850, avec la vapeur, avec les nouveaux canons. Donc on commence à voir qu'enfin on peut tirer vers la terre, et pas seulement l'inverse. Et puis c'est la Clément Ader, le grand théoricien très très tôt de la Médalère, qui vole, qui a décrit comment ça se fera un porte-avions. Il a fait 1905 dans une façon tout à fait admirable. Castex, quant à lui, il voit dans les années 20, fin des années 20, début années 30, d'abord que pour être maîtrise de la mer, il faut avoir la maîtrise de l'air aussi. Et il écrit beaucoup sur l'interaction entre terre et mer. Mais malheureusement, la flotte de l'amiral d'Arlan était très fort, très bien formé, si je bien comprends. On a beaucoup sous-estimé la chose aérienne, comme la marine suédoise d'ailleurs. Puis il faut évidemment la question de la porte-avions européenne, si on peut dire. Évidemment, une question.
Vaste sujet.
Oui, très importante. Mais ça va venir plus tôt dans mon prochain livre.
Ah bon ? Eh bien, écoutez, nous sommes heureux de cette nouvelle. Parce qu'en attendant, je conseille la lecture de votre livre qui est plein de réflexions. Qui, je dois dire, pour nous Français, est encourageant parce que vous rendez hommage à la pensée militaire française. On entend tellement de critiques autour de nous que de temps en temps, ça fait plaisir qu'un officier étranger de votre niveau, n'est-ce pas, vienne rendre hommage à la pensée militaire française. Ça nous fait plaisir. Je vous en remercie doublement. Merci, commandeur.
Merci, bonjour, général.
Vous pouvez trouver sur Canal Académie les autres lauréats de ce prix Edmond Fréville, Pierre Messmer, Jérôme de Lespinois pour son ouvrage Politique, Défense, Puissance, 30 ans d'opérations aériennes, Christian Malice qui a dirigé l'ouvrage Guerre et manœuvre, héritage et renouveau, Michel Goya qui a publié un ouvrage sur l'Irak, les armées du chaos, et François Cailletot pour son ouvrage « Gagner la Grande Guerre » paru chez Economica.